Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour le troisième dimanche de Pâques. Revenant d'Emmaüs, les deux disciples racontent ce qui est arrivé sur le chemin et comment le Seigneur Jésus s'est fait connaître au partage du pain. Alors qu'ils sont en train de dire ces choses, lui-même se tient au milieu d'eux et leur dit
« Paix à vous ».
Ils sont pris d'effroi et de crainte. Ils pensent voir un esprit. Il leur dit
« De quoi êtes-vous troublés? Pourquoi des objections montent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est moi, moi-même. Palpez-moi et voyez. Un esprit n'a pas de chair et d'os comme vous percevez que moi j'ai. »
En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Comme ils sont encore incroyants à cause de leur joie et qu'ils s'étonnent, il leur dit
« Avez-vous ici quelque chose à manger ?»
Il lui présente un morceau de poisson grillé. L'ayant pris, il le mange en leur présence. Il leur dit
« Ces paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous, à savoir qu'il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. »
Alors il ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit
« C'est ainsi qu'il a été écrit que le Messie doit souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et en son nom doit être proclamée à tous les peuples la conversion en vue du pardon des péchés, commençant par Jérusalem. » Vous en êtes les témoins. Voici que moi, j'envoie la promesse de mon Père sur vous. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance divine. Auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul écrivait « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre message est vide et vide aussi notre foi. » Cette affirmation est-elle vraie pour nous? Est-il nécessaire de croire en la résurrection pour être chrétien?
Eh bien, cela pourrait être la question à garder tout au long de notre réflexion sur ce récit. En quoi cette apparition de Jésus aux 11 apôtres est-elle une condition absolue de la foi? Ce sans quoi il est illusoire, vain de mettre notre confiance en Jésus. Et comment ce récit nous enseigne-t-il à vivre comme des croyants en Jésus ressuscité de la mort? Mais regardons l'emplacement de notre texte. Le chapitre 24 de Luc, le dernier de son récit, comporte quatre séquences. La découverte du tombeau vide, faite par les femmes à qui deux anges apparaissent. Deuxièmement, le récit des compagnons d'Emmaüs. Troisièmement, l'apparition de Jésus aux 11, qui est notre texte. Et enfin, les adieux de Jésus, son ascension à Béthanie. Tous ces faits sont situés par Luc dans la journée de la résurrection, le premier jour de la semaine. Ils se passent à Jérusalem ou près de Jérusalem, comme semble l'être le village d'Emmaüs. Luc ne décrit aucune rencontre de Jésus ressuscité en Galilée, comme le font Matthieu et Jean. D'autre part, dans l'autre récit qui est signé par Luc, et qu'on appelle les Actes des Apôtres, eh bien l'ascension de Jésus semble se situer, non pas au jour de Pâques, mais au terme de 40 jours après la résurrection. Ces différences, eh bien elles nous indiquent que le récit de Luc, comme les autres évangiles, n'est pas d'abord une recension chronologique, mais qu'il s'agit surtout et d'abord d'une catéchèse qui veut guider les chrétiens en leur faisant pénétrer le sens profond de cet événement qu'est la résurrection de Jésus. Regrouper en une même journée toutes les apparitions de Jésus ainsi que son ascension, eh bien cela peut être pour signifier que résurrection et ascension sont comme les deux aspects d'une seule et unique réalité qui est la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort et sa communion définitive avec le Père divin. La période symbolique de 40 jours pourra être comprise, elle, comme étant le temps nécessaire pour que le ressuscité puisse établir les bases de la communauté chrétienne, comme il avait fallu 40 ans dans le désert pour que Moïse puisse transformer des tribus juives en peuple de Dieu. En effet, le fait que nous fêtions l'Ascension 40 jours après la fête de Pâques pourrait nous amener à trop durcir les indications des récits de Luc. Souvenons-nous que l'Ascension n'est devenue une fête distincte de celle de Pâques qu'au IVe siècle.
Jésus est présent au milieu d'eux.
L'apparition aux 11 apôtres est comme le sommet de ce grand jour de la résurrection. Les femmes ont reçu un message. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Elles ont rapporté ces paroles aux 11, mais ceux-ci n'ont pas donné foi à leur dire. Ces propos leur semblèrent du radotage. Le récit d'Emmaüs semble être une sorte de parenthèse. En effet, il se termine par la profession de foi des 11. C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Alors que peu après, l'apparition de Jésus va trouver ses mêmes disciples incroyants. Et elle va provoquer chez eux stupeur et crainte. Ils croyaient voir un esprit. Selon la conception du temps, l'esprit est un être céleste, étranger au monde terrestre, d'où la crainte des apôtres, qui est habituelle dans la Bible, devant l'irruption du monde divin. Jésus va les amener à le reconnaître comme un être humain. « Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Ils n'ont pas contact avec un pur esprit ou un ange, ils ont vraiment contact avec le même Jésus avec lequel ils ont vécu, avec celui qu'ils considéraient comme le Messie et qui a été crucifié. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Ces mains et ces pieds sont ceux qui ont été cloués sur la croix. L'identité entre le crucifié et le ressuscité devrait attester aux yeux des disciples que le chemin de la croix est bien voulu par Dieu lui-même. Aux preuves des marques de la croix, Jésus va même ajouter la preuve du repas, ce repas qui a été bien des fois un moment d'intense communion entre lui et ses disciples, et notamment bien sûr le dernier repas qu'il a laissé comme le mémorial de sa mort par amour. Cette identité du ressuscité et du crucifié est aussi importante pour fonder la foi de ceux qui n'auront pas connu Jésus de son vivant. Et c'est ce qu'indique Pierre lors de l'élection du remplaçant de Judas.
Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection.
Cette apparition de Jésus aux 11 sera fondamentale pour la foi de ceux qui deviendront ses disciples tout au long de l'histoire. Elle n'est pas une sorte de privilège qui serait donné à ceux qui l'ont suivi depuis le début, elle est plutôt une responsabilité, car cette apparition leur est donnée pour tous les chrétiens qui n'auront pas connu le Jésus terrestre.
L'expérience de la rencontre du Seigneur vivant est fondamentalement la même pour le chrétien d'aujourd'hui, car le Christ est toujours aussi réellement présent dans le frère inconnu qu'on rencontre sur la route et dans les sacrements, avant tout dans l'Eucharistie. Pourtant, il y a une différence. Les apôtres l'ont connu durant sa vie terrestre. Ils peuvent donc vérifier que l'expérience de ressuscité qu'ils font maintenant correspond à celle du Jésus terrestre qu'ils ont faite avant. Et cela nous est, à nous, impossible. Pour vérifier l'authenticité de notre expérience, nous devons la confronter à celle des apôtres. Alors, il ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures.
Malgré la vue des pieds et des mains, le récit nous dit « ils sont encore incroyants ». Quel blocage les empêche donc de reconnaître le Maître? Des deux disciples d'Emmaüs, il était dit « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Et Jésus leur a dit « insensés, cœurs lents à croire ce qu'ont dit les prophètes ». Eh bien, au 11, il va rappeler ses propres paroles.
« Ces paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous, à savoir qu'il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Pour reconnaître Jésus comme le ressuscité, il faut donc approfondir les Écritures. Rappelons-nous la finale de la parabole de Lazare et du riche. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un reviendrait de chez les morts, il ne serait pas convaincu. C'est dans les Écritures que Jésus a trouvé le vrai visage du Messie qu'il devait être. Ce chemin de la croix, du don de sa vie, qui a été choisi par Jésus, se retrouve en effet dans les chants du serviteur souffrant du prophète Isaïe.
Il était méprisé, laissé de côté par les humains, homme de la douleur, familier de la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oui, il a été retranché de la terre des vivants. Par nos péchés, il a été frappé à mort. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par ses souffrances, mon serviteur justifiera des multitudes.
Dans le récit de Luc, lors de la transfiguration, deux témoins sont présents. Et ils sont présents pour attester que le chemin de la croix que Jésus a suivi, et qu'il a choisi, est en accord avec l'amour de Dieu. Ce sont ces témoins, Moïse et Élie, qui parlent avec Jésus de son exode qui doit s'accomplir à Jérusalem. L'exode dessine ici la sortie de ce monde, donc la mort. Comment Moïse et Élie viennent-ils confirmer Jésus dans la décision de se livrer à ses adversaires? Eh bien, il y a un élément qui est commun à Moïse, à Élie et à Jésus en cet instant, c'est qu'ils ont fait, tous les trois, une rencontre spirituelle particulière et forte avec Dieu sur la montagne. Rappelons-nous ce passage de la vie de Moïse, il avait imploré Dieu.
« Si je jouis de ta faveur, daigne me révéler tes voies pour que je te comprenne. »
Et Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne et c'est là qu'il va lui révéler qui il est. Dieu passe devant Moïse et sa voix se fait entendre.
« Je suis Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. »
Voilà quel est le visage de Dieu révélé à Moïse, tendresse et miséricorde. Eh bien, l'expérience d'Élie sera quelque peu semblable. On se souvient, Élie est découragé, il a été animé d'un zèle fougueux pour Dieu, un zèle qui l'a conduit à faire mourir les faux prophètes et les juifs infidèles. Mais ce zèle ne semble pas avoir mené à la vraie victoire de Dieu.
« Je suis resté seul et ils veulent me tuer. Prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Dieu le fait monter lui aussi sur la montagne où il va se manifester à lui, non pas dans le vent et le tonnerre, qui sont les symboles du Dieu qui manifeste sa puissance contre les forces du mal, mais au contraire dans le bruit d'une brise légère. Et Élie s'étonne. Comment Dieu peut-il permettre que son peuple lui soit si infidèle? Pourquoi Dieu ne réagit-il pas en le punissant comme lui Élie a puni les faux prophètes qui adoraient les faux dieux? Et que répond la voix divine? Je me suis réservé 7000 fidèles en Israël. Eh bien, que signifie cette réponse? Nous savons comment l'interprétation juive se faisait à l'époque de Jésus. Elle comprenait cette réponse, je me suis réservé 7000 fidèles en Israël, comme le signe de la miséricorde divine. C'est en effet ainsi que l'apôtre Paul le fait dans sa lettre aux Romains.
Ainsi, pareillement, aujourd'hui, il subsiste un reste élu par grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est pas à cause des mérites de leurs actes. Autrement, la grâce n'est plus grâce.
Ainsi, pour Élie, Dieu se révèle lui aussi comme le Dieu miséricordieux. Voilà ce que l'expérience de Moïse et d'Élie, c'est-à-dire les Écritures, apporte à Jésus sur la montagne. Elle lui apporte cette certitude que Dieu est Dieu de grâce et de miséricorde avant d'être Dieu de justice. Dieu est amour, et ce n'est que l'amour qui peut vaincre le mal. La justice qui punit le méchant est impuissante à transformer son cœur. La mission de Jésus sera de traduire jusqu'au bout cet amour de Dieu pour ceux-là même qui le rejettent et qui vont le condamner à mort. Ce sera cette certitude qui va conduire Jésus à la croix. Cette foi en l'amour plus fort que la justice permet de comprendre l'expression « il faut » que l'on trouve dans les annonces de la Passion.
« Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté et mis à mort. et que le troisième jour, il ressuscite.
De même, sur la route d'Emmaüs, Jésus a dit aux deux disciples, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ?» Entrer dans la gloire, c'est entrer dans la plénitude de l'amour. Et pour entrer pleinement dans l'amour, il faut vivre l'amour jusqu'au bout sans jamais renier ce chemin de bonté. C'est l'amour qui conduit celui qui aime au don de sa vie. On ne peut donc reconnaître Jésus ressuscité, Jésus entré dans la gloire de Dieu, si l'on n'a pas compris d'expérience le sens de la croix comme don de sa vie. Pour Jésus, ce chemin de bonté l'a conduit à être rejeté par les gens qui avaient le pouvoir, c'est-à-dire les grands prêtres et les familles riches. Leur pouvoir sur le peuple s'appuyait en effet sur la crainte d'un Dieu qui était vu comme un juge, sur un Dieu dont la toute puissance se manifestait par le châtiment des pécheurs. Aussi, ces forces de domination, que sont les grands prêtres et les familles riches, se sont liguées contre celui qui était le témoin du Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui est Père, qui pardonne jusqu'à 70 fois cette fois, c'est-à-dire toujours. Et devant ce refus du Dieu de pardon, Jésus ne pouvait s'opposer par la force et la violence. Il serait alors entré lui aussi dans la logique de la haine et de la violence, et il aurait alors perdu la perfection de l'amour de son cœur. Pour garder son cœur aimant, Jésus n'a pu que donner, livrer sa vie comme un geste de pardon. Le pardon, parce qu'il est un geste d'amour, fait le pari de toucher le cœur de l'adversaire. Il espère l'ouvrir lui aussi à cette vie de générosité et de bonté. Ce chemin de la croix est donc le vrai chemin de l'amour tel que Dieu le vit. Il est l'unique chemin qui conduit à vivre pour toujours de la vie divine. Qui veut sauver sa vie doit accepter de la perdre, de la donner.
En son nom doit être proclamée à tous les peuples la conversion en vue du pardon des péchés.
Le récit parallèle de Jean peut nous aider à comprendre cette phrase. Jésus ressuscité insuffle son souffle de sainteté à ses disciples en leur donnant mission de remettre les fautes.
Recevez l'esprit de sainteté. Ceux à qui vous remettrez les fautes, elles leur seront remises.
Il y a un lien essentiel entre la mort de Jésus et la mission de prêcher le pardon, puisque le don de sa vie que fait Jésus est un geste de pardon. Revenu à la vie immortelle, Jésus continue de donner son amour à la multitude pour guérir le cœur de ceux qui sont en communion avec lui. Écoutons ce que dit Christian Ducoq.
Jésus meurt en pardonnant. Si sa mort était le dernier mot de l'Évangile, sans doute pourrions-nous admirer sa grandeur d'âme et la noblesse de son cœur, mais rien n'assurerait que Dieu avait entendu sa prière, qu'il pardonnait comme lui. Celui qui a pardonné est désormais vivant. L'acte de son pardon, dans le don de l'Esprit, qui en atteste la permanence, est assuré définitivement comme le seul jeu de Dieu à l'égard de l'humanité. Parce qu'en son Fils, Dieu fut le torturé. Il peut, sans se moquer de tous les torturés et les exploités, pardonner et assurer que ce pardon est la nouveauté qui rend l'histoire possible. Dieu est du côté des victimes et non des bourreaux. Mais il est du côté des victimes qui créent l'histoire, car il ne désespère pas que les bourreaux entrent dans une autre logique, celle de celui-là même qui pardonne.
Les disciples ont donc pour mission de poursuivre l'œuvre de Jésus en appelant tous les humains à la conversion. Vous en êtes les témoins. Face à une vision d'un Dieu qui punit le méchant, le disciple de Jésus prêchera un Dieu qui pardonne en son Fils, le Messie. Face à un monde qui est marqué par la puissance du mal, le disciple de Jésus doit témoigner que l'amour peut être plus fort que la haine et la violence qui établissent la domination des forts sur les faibles. Dès les débuts de sa mission, Jésus s'est engagé à témoigner que Dieu fait grâce. Si le règne de Dieu peut être proche, c'est que Dieu ne s'acharne pas à juger et à condamner, mais qu'il veut au contraire sauver le monde, et cela par l'amour et le pardon.
Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
La conversion qui est demandée est de croire à la miséricorde de Dieu.
Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes et qui n'ont pas besoin de conversion.
Il y a là un appel à convertir sa vision de Dieu, à changer son regard sur lui. Dieu ne peut régner sur le monde et dans les cœurs que par l'amour. Oh, certes, certains textes bibliques annonçaient le grand jour de la colère de Dieu qui doit châtier les pécheurs. Jésus, lui, ne parle guère de ce grand jour, sauf quelquefois, mais pour le situer à la fin des temps et en disant que lui-même en ignore la date.
Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul.
Le récit de Jean insiste au contraire sur le désir de Dieu de sauver.
Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Pour ce temps de l'histoire, nous devons mettre en pratique ce que les Juifs appelaient l'an de grâce. C'est ce que Jésus a proclamé comme étant son programme au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur.
L'an de grâce est celui où l'on remet les dettes et les fautes sans condition aucune. Les catholiques ont gardé mémoire de ces temps de grâce que la Bible fixait tous les 50 ans. C'est ce que nous appelons l'année du jubilé. Le pape Jean-Paul II a invité à célébrer l'an 2000 comme une année jubilaire. Il a demandé aux pays riches de remettre la dette des pays pauvres. Et il a aussi lui-même demandé pardon pour les fautes des catholiques au long des siècles passés. Mais cette année jubilaire ne devrait que raviver une attitude qui doit être, elle, permanente, une attitude de tous les temps. L'apôtre Paul le confirme dans sa deuxième lettre aux Corinthiens.
Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des êtres humains, et mettant en nous la parole de réconciliation.
C'est le ministère de la réconciliation qui est donc le ministère premier des chrétiens dans le monde. À celui qui a ouvert son cœur et son intelligence au mystère de Jésus, il est donné de participer à la mission de son Seigneur, qui est de convertir les cœurs au pardon. Au pardon, certes, que l'on reçoit personnellement de Dieu, mais aussi au pardon qui peut régler les conflits entre les êtres humains. Au-delà de la justice, pourtant si nécessaire, c'est sur le pardon que se joue le salut de l'humanité. Il y a quelques années, un jeune journaliste français a été détenu 2 ans en otage au Liban. Et ce sont ces geôliers, des musulmans, qui lui ont donné l'Évangile, l'Évangile qu'il n'avait jamais lu. Et à sa libération, il disait « Ce qui m'a permis de survivre, ce sont 2 choses que j'ai découvertes dans l'Évangile. Il faut garder confiance en Dieu quoi qu'il arrive, car il est notre Père. » Et il ne faut jamais se laisser aller à haïr ses ennemis. Car même s'ils sont des bandits, ils sont eux aussi appelés à être des fils de Dieu. Jésus vivant nous accompagne par sa parole et son esprit sur les chemins de notre vie. Il nous demande de vivre le pardon pour libérer le fond de bonté qui se trouve dans le cœur de tout être humain, comme le dit si bien Jean-Marie Tillard.
Il est coutume de dire qu'on a perdu le sens du péché. Par contre, on a gardé la nostalgie de la bonté. L'être et la responsabilité de l'Église s'enracinent là. L'Église est chargée par l'Esprit de révéler, d'éveiller, de dégager la bonté qui dort dans le cœur humain.
la réalité du pardon, la force de la réconciliation, est ainsi le témoignage que Jésus est toujours présent au milieu des siens. Pour cette mission si souvent difficile, le ressuscité continue de communiquer son esprit. « Voici que j'envoie la promesse de mon Père sur vous, pour que vous soyez revêtus de puissance divine. »
Seigneur Jésus, ressuscité de la mort, tu es entré dans la gloire. Mais tu demeures le Christ de Nazareth et de la croix. Celui qui a choisi les pauvres comme amis. Celui qui chemine avec les marginaux et les handicapés. Celui qui souffre avec les malades et les prisonniers. Celui qui n'impose pas sa présence, mais propose humblement son amour. Celui qui frappe discrètement à la porte et se fait le serviteur de ses frères. Celui qui attend avec patience la possibilité de la rencontre malgré sa grande hâte de communier. Celui qui croit en la force du pardon pour faire renaître la bonté dans le cœur du mal-aimant. Car tu es le Fils de Dieu, du Dieu tout aimant, et tu vis dans la communion de l'Esprit de bonté, aujourd'hui, chaque jour et pour les siècles des siècles. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner au feuillet ou aux cassettes pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.